Ils sont en Égypte pour la COP 27, la conférence sur le climat qui se déroule à Sharm el-Cheikh jusqu'au 16 novembre prochain. La fin hier de la visite officielle du pape François à Bahreïn, le souverain pontife a notamment évoqué la situation au Liban en invitant les dirigeants du pays à laisser de côté leurs intérêts personnels. De nouvelles manifestations hier dans des universités en Iran et des régions kurdes du nord-ouest du pays. L'intensité du mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas malgré la répression. La guerre en Syrie, 10 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées, des dizaines blessées hier dans le nord-ouest du pays, dans la province d'Idleb. C'est un signal très positif. On ne peut pas accepter dans la vie politique française qu'un énergumène puisse venir débiter son racisme ouvertement. Réaction du président de SOS Racisme après que le député RN, Grégoire de Fournas, a été exclu de l'Assemblée pendant 15 jours pour sa phrase qu'il retourne en Afrique. Dominique Sopo sera l'un de nos invités. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap vont augmenter de 10% en septembre prochain. Nous y reviendrons avec le coordinateur national du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. La COP 27 s'est ouverte hier en Égypte. La conférence sur le climat se déroule à Sharm el-Cheikh où quelques 40 000 participants sont attendus, dont les dirigeants du monde entier. Le sommet des chefs d'État se tient aujourd'hui et demain. Le président français Emmanuel Macron a assuré en marge de la conférence vouloir mettre la pression sur les pays riches non européens et notamment les États-Unis pour qu'ils payent leur part pour aider les pays pauvres face au changement climatique. Les pays en développement, fortement représentés, demandent un soutien financier beaucoup plus important aux pays développés. La fin hier de la visite officielle du pape François à Bahreïn, le souverain pontife a notamment évoqué la situation au Liban en invitant les dirigeants du pays à laisser de côté leurs intérêts personnels. S'il vous plaît, soutenez le Liban, aidez-le pour qu'il sorte de cette mauvaise pente, que le Liban retrouve sa grandeur, a dit le pape François au cours d'une conférence de presse à bord de l'avion le ramenant de Bahreïn. Le pape est arrivé hier à Rome après cette visite de 4 jours consacrée en particulier au dialogue avec l'islam. Cela a été un voyage de la rencontre dans un pays ouvert à tous, a confié François, insistant à nouveau sur l'importance du dialogue entre différentes cultures et confessions. Qu'il retourne en Afrique. Les propos d'un député Rassemblement National lancés jeudi soir dernier à l'Assemblée nationale lors de l'intervention du député LFI Carlos Martins Bilongo ont suscité un tollé au sein de la classe politique. Le député posait une question au gouvernement sur l'immigration clandestine. Les députés ont voté vendredi dernier l'exclusion de 15 jours de l'élu RN Grégoire de Fournas, soit la sanction la plus sévère. Suite à cette sanction, le président de SOS Racisme évoque un signal positif. Dominique Sopo.
Je pense que la majorité de la classe politique a réagi en condamnant ces propos sans tergiverser, donc c'est une bonne chose, en dehors évidemment de l'extrême droite hein, qui essaye de défendre ce député mordicus en essayant de banaliser les propos racistes qu'il a tenus, mais de façon globale, et la sanction prononcée vendredi par l'Assemblée nationale à l'égard de ce député, à savoir la plus forte sanction qui est l'exclusion temporaire pendant 15 jours et un passage à la moitié de son traitement de député pendant 2 mois, je pense que c'est un signal très positif, parce qu'on ne peut pas accepter dans la vie politique française qu'un énergumène comme M. de Fournas puisse venir débiter son racisme ouvertement en pleine Assemblée nationale, qui est un lieu de dignité, qui est le lieu de la fabrique de la loi et qui n'est certainement pas le lieu dans lequel des personnes viennent tenir des propos qui s'attaquent ostensiblement au fondement de la République.
Lui affirme qu'il s'adressait aux migrants en situation irrégulière présents sur le bateau de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, et cela reste pour vous scandaleux?
D'abord, M. de Fournas et ses soutiens au Rassemblement National ont varié quelque peu leur version. Alors certains disent, mais en fait, ça n'était pas au singulier, c'était au pluriel qu'il voulait dire, puisqu'il parlait des migrants. Premièrement, je pense qu'il faut dire que ça n'est pas un problème de conjugaison, c'est un problème de racisme, parce que cela ait été dit au singulier ou au pluriel, on est évidemment dans du racisme. On est dans du racisme si ça s'adressait aux députés, parce que quelque part, il dit à un député noir, tu n'es pas légitime ici, et retourne chez toi, qui n'est pas la France, qui est l'Afrique. Et si c'était au pluriel et que ça s'adressait aux migrants, Je rappelle qu'on parle de gens qui sont en péril de mort, qui sont amenés pour être mis en sécurité, pour éviter qu'ils meurent dans des ports européens, lorsqu'ils sont proches des côtes européennes. Et M. de Fournas dit qu'il retourne en Afrique, c'est-à-dire quoi? Qu'il refasse la traversée dans l'autre sens et qu'il crève dans la Méditerranée. Et ça ne serait pas raciste. Évidemment, ici, qu'on est sur un personnage raciste, comme l'attestent d'ailleurs ces propos passés qui sont visibles sur les réseaux sociaux où M. de Fournas a manifestement une obsession contre les Noirs, contre les Arabes, que régulièrement il appelle à repartir chez eux ou envers lesquels il rêve tout haut de les expulser en bloc, quel que soit d'ailleurs leur statut légal sur le territoire national. Donc M. de Fournas est un habitué manifestement de ses propos, est une personne dont l'imaginaire est un imaginaire totalement raciste, notamment en direction de l'Afrique, et les propos qu'il a tenus sont finalement la révélation de cette dimension raciste, mais cette fois-ci non plus sur son fil Twitter ou sur son compte Facebook, mais en pleine Assemblée nationale.
Vous demandez l'exclusion de ce député de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée a été au bout de ce qu'elle pouvait faire. Je pense ensuite que lorsqu'on est confronté à ce type de propos, il faut aussi être conscient que le racisme, ça ne se règle pas qu'à travers des procédures disciplinaires ou à travers des sanctions judiciaires. Lutter contre le racisme, c'est aussi un combat politique, c'est aussi un rapport de force, c'est aussi la question de s'engager ou pas contre le racisme au quotidien. Parce que si ces gens se sentent aujourd'hui autorisés à tenir ce type de propos, c'est parce que il n'y a pas assez de résistance en face ou parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de résistance en face. Je pense qu'il faut aussi que, évidemment la classe politique, mais plus généralement les citoyennes et les citoyens, retrouvent le goût du combat contre le racisme et ne se laissent pas impressionner ou ne se laissent pas duper par les numéros de claquettes du Front National ou du Rassemblement National ces dernières années qui visent soit à faire taire les antiracistes, soit à se présenter comme une extrême droite assagie qui aurait tourné le dos à ces vieux démons.
Et la réaction suite à ces propos, cette exclusion temporaire notamment, signifie-t-elle que la résistance que vous évoquez est bel et bien vive?
Il y a une résistance qui existe toujours par rapport au Rassemblement National, bien évidemment. Ceci étant, je tiens à faire remarquer que cette résistance est insuffisante. D'ailleurs, si elle était suffisante, Marine Le Pen n'aurait pas fait 42% au second tour de l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il y a quand même à interroger aussi la façon dont toute une partie des médias ont contribué très fortement à banaliser le Rassemblement National, à faire taire les voix de l'antiracisme, qui aujourd'hui sont plutôt, marginalisées dans le débat public au profit de personnages comme Éric Zemmour, par exemple, qui pendant des années a eu son rond de serviette dans toute une série de médias dès qu'il sortait un livre ou même comme chroniqueur régulier dans telle ou telle émission. Toute une série d'intellectuels qui sont invités pour venir expliquer que le problème de la France, ce serait le wokisme et les antiracistes, alors que pendant ce temps-là, il y a un parti fondé par des Vassan-SS qui est à 42% au second tour de l'élection présidentielle, et des jeux politiques extrêmement malsains qui sont tenus. J'entends M. Darmanin qui, par exemple, s'émeut de ce qu'il a entendu à l'Assemblée nationale de la part de ce député, mais M. Darmanin, depuis plusieurs mois, joue aussi sur la corde de immigration égale délinquance et reprend toute une série des thématiques traditionnelles du Rassemblement national pour des raisons bassement électorales.
Un rassemblement initié par la France Insoumise s'est tenu vendredi dernier devant l'Assemblée nationale. Vous étiez présent. Plusieurs membres de la France Insoumise souhaitent une grande manifestation pour faire part des dangers du racisme aujourd'hui en France. C'est aussi l'un de vos souhaits en tant que président de SOS Racisme. Vous appelez à ce type de rassemblement.
Il faut réfléchir de toute façon toujours à la façon dont on peut se mobiliser pour faire refluer le racisme. Donc nous regarderons quelles sont les méthodes les plus adaptées pour y arriver, mais lutter contre le racisme, c'est effectivement prendre la rue, c'est aussi travailler dans les écoles, c'est aussi accompagner les victimes, c'est aussi interpeller les responsables politiques et associatifs lorsqu'ils déraillent, etc. C'est un ensemble de choses qu'il faut réaliser dans une constance, dans une quotidienneté, et c'est aussi pour cela que les associations ont besoin d'être renforcées par les énergies des citoyens.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier dans des universités en Iran et des régions kurdes du nord-ouest du pays. L'intensité du mouvement de contestation contre le régime ne faiblit pas malgré la répression. Les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier, après son arrestation par la police des mœurs, sont la plus importante vague de contestation dans le pays depuis la révolution islamique de 1979. Les universités sont devenues l'un des principaux foyers de cette contestation. Près de 200 personnes ont été tués dans la répression de ce mouvement. La guerre en Syrie, 10 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées, des dizaines blessées hier dans le nord-ouest du pays, dans la province d'Idleb. Ces personnes ont été victimes des bombardements du régime de Damas. Plus de 30 roquettes sont tombées sur plusieurs zones à l'ouest de la ville d'Idleb. La guerre en Syrie a tué depuis 2011 près de 500 000 personnes et déplacé plusieurs millions d'autres à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap en France vont augmenter de 10 septembre en septembre prochain. Une annonce du gouvernement, les 132 000 AESH de l'éducation nationale perçoivent en moyenne un salaire de 800 euros par mois, une rémunération qui se situe sous le seuil de pauvreté. Suite à cette annonce du gouvernement, entretien avec le coordinateur national du collectif handicap, Stéphane Lenoir.
Le collectif peut se réjouir de l'annonce de cette augmentation des salaires des AESH, mais effectivement, on risque de ne pas sortir forcément de la précarité des AESH avec l'augmentation des 10%. Les conditions de travail, on les connaît, elles peuvent être difficiles, c'est souvent du temps partiel, les AESH sont malheureusement pas assez formés ou trop tardivement. Donc l'augmentation de salaire est évidemment la bienvenue, mais il y a d'autres conditions très certainement à remplir pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions pleinement.
Et quelles sont ces conditions aujourd'hui ?
Eh ben, c'est déjà de la formation. Il est évident que lorsque vous avez un professionnel qui se retrouve devant un élève avec des difficultés et dont il ne comprend pas le fonctionnement, l'AESH ne peut pas remplir pleinement sa fonction. Donc il faut absolument que les AESH, mais j'ai même presque envie de dire l'ensemble du corps enseignant, soit formé aux difficultés des élèves qu'ils ont dans leur classe. Et ensuite, il y a effectivement la question aussi du temps partiel, qui amène à avoir des salaires à la fin du mois qui sont franchement minimes, hein, en tout cas qui ne permettent pas de vivre correctement. Donc il faut trouver une réponse aussi à ça, il faut permettre aux AESH, en tout cas qu'ils le souhaitent, d'avoir un temps plein.
Quelles sont leurs missions, précisément ?
Les missions des AESH, c'est effectivement d'accompagner l'élève. Alors ça va dépendre beaucoup des situations de handicap des élèves, mais ça peut par exemple être très concrètement, simplement reformuler une consigne. Ça peut être accompagner l'enfant dans... par exemple dans la relation aussi avec les autres camarades, en tout cas dans un premier temps, même si après l'AESH devra effectivement se mettre en retrait. Ce sont des missions d'accompagnement. Ce qui fait dire que effectivement les missions des AESH sont clairement définies et que la seule présence des AESH pour certains élèves ne va pas suffire et qu'il y aura d'autres conditions à remplir pour que l'élève puisse avoir un parcours scolarisation correct.
Et avec une rémunération qui tourne autour de 800 euros par mois, cela ne peut pas être la seule activité de cette personne.
Oui, alors après, ça tout dépend des situations individuelles, mais il est très clair qu'avec 800 euros par mois, si on imagine une situation où la personne vit seule à Paris, par exemple, il est évident que c'est absolument pas suffisant pour vivre. Et donc, ça crée évidemment une attractivité extrêmement faible, ce qui, n'attire pas forcément les personnes, hein, ça motive pas en tout cas à accéder à ce métier. Et puis, encore une fois, avec 800 euros par mois, on ne vit pas. Hein.
Comment les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, sont-ils formés?
Normalement, les AESH sont formés par l'éducation nationale. Hein. Alors, je ne connais pas plus précisément les modalités, mais normalement, c'est à l'éducation nationale de former donc les AESH. Après, évidemment, il faut aussi qu'il y ait des relations avec les parents, parce que les parents connaissent très bien leurs enfants, ils connaissent très bien les comportements. Et donc, il faut aussi que cet apprentissage des AESH passe aussi par l'expérience des parents qui vont pouvoir donner des astuces, qui vont expliquer le comportement de l'enfant, ses aspirations, etc., etc. C'est évidemment la connaissance la plus fine possible, à la fois du handicap de l'élève, on va dire de manière générale, mais aussi la connaissance fine de la manière dont fonctionne l'enfant, qui va permettre à l'AESH d'accomplir au mieux sa mission.
Et aujourd'hui, quelques 430 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire en cette année scolaire, en 2022-2023, et la présence des AESH est bien entendu indispensable. Cette décision du gouvernement, c'est une forme de reconnaissance pour vous?
J'y mettrais un petit bémol. La présence des AESH, elle est nécessaire pour un certain nombre d'enfants. Et donc, effectivement, le fait que l'éducation nationale ou le gouvernement souhaite recruter davantage d'AESH est plutôt une bonne chose. En tout cas, on préfère qu'on ait une politique de recrutement plutôt qu'il n'y ait pas de politique de recrutement. Là où je mets un bémol, c'est qu'il ne faudrait pas croire que les AESH sont l'alpha et l'oméga de l'inclusion scolaire. Il y a d'autres conditions qui permettent aux enfants d'avoir accès aux apprentissages et un parcours de scolarisation correct. Et parfois, ça passe par un matériel, par des matériels informatiques, par exemple, hein, tout simplement un ordinateur. Ça passe aussi par des méthodes pédagogiques adaptées. Ça passe par de la sensibilisation ou de la formation du corps enseignant. Voilà, il y a plein de modalités qui permettent une scolarisation des enfants en situation de handicap. Parfois, il faut des AESH et parfois, il faut remplir d'autres conditions.
Le coordinateur national du collectif Handicap, Stéphane Lenoir. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Sachez que votre radio, Radio Orient, est désormais à Caen, en DAB+, la radio numérique terrestre. Ce nouveau lancement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 36 secteurs en DAB+, 11 sur la bande FM. Et pour bénéficier de l'écoute des radios diffusées en DAB+, il suffit d'avoir un poste ou un autoradio équipé de cette technologie et ils sont désormais très nombreux. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash. 17h30 pour le journal en langue française. À 19h et 23h, l'invité de Pluriel sera Yannick Trigance, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de l'éducation. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.